Radio Kapi.
Oh, Kapi. Patience Ngalula Banangé pour le journal. Les titres de ce journal, la société civile dénonce des arrestations qualifiées d'arbitraires des activistes des mouvements citoyens par les services de sécurité. Elle s'est ainsi exprimée dans une conférence de presse faite suite aux arrestations des jeunes des mouvements citoyens qui ont eu lieu il y a quelques semaines, qui ont été arrêtés arbitrairement selon elle. À Goma, des centaines de sacs de braise arrivés au port de Kitoukou depuis samedi restent bloqués dans les barges et pirogues motorisées. À la base de cette situation, un désaccord entre les vendeurs de braise et les services chargés de percevoir les taxes dans ces marchés, affirment nos sources. L'invité de ce journal est Christophe Moutaka, directeur du groupe Martin Luther King Nord-Kivu. Il propose la guérison des mémoires comme thérapie et en même temps une réponse au cycle des violences que subit la population dans certaines zones, notamment dans le Nord-Kivu et l'Ituri. Bonjour, le Congo n'est pas à vendre. CNPAV, une plateforme des organisations de la société civile de la RDC, appelle les autorités à prendre des mesures afin de garantir aux activistes des droits de l'homme et aux journalistes les conditions nécessaires d'exercer leur travail dans la dignité et le respect des lois de la République. Dans une conférence de presse hier mercredi à Kinshasa, Jean-Claude Katende, président national de l'ASADO, dénonce des arrestations qualifiées d'arbitraires des activistes des mouvements citoyens par le service de sécurité. Jean-Claude Katende, l'édite à Paul Matendo.
En fait, la conférence de presse que nous avons organisée aujourd'hui fait suite aux arrestations des jeunes des mouvements citoyens qui avaient eu lieu il y a quelques semaines, qui ont été arrêtés arbitrairement, mais aussi qui ont été victimes des actes de torture. Nous disons que ce sont des arrestations arbitraires parce que ces citoyens n'ont rien fait et ont été arrêtés dans les conditions telles que leur dignité humaine n'avait pas été respectée. Ils ont été victimes des actes de torture de la part des agents de l'ANR. Les organisations des droits de l'homme et des mouvements citoyens sont fatiguées de voir que la Constitution par rapport à eux n'est pas respectée. Les actes qui ont été posés sont des actes que nous dénonçons et qu'ils doivent prendre des mesures, parce qu'on est en démocratie, de garantir en fait à chacun de nous d'exercer son travail dans les conditions qui protègent sa personne, sa dignité et ses droits.
Au Sud Kivu, l'année 2024 commence dans un climat d'insécurité totale selon l'organisation SAGESEC, Synergie des jeunes pour l'éducation civique. Le mois de janvier dernier a été marqué par des tueries et des enlèvements. Au total, 31 personnes tuées, 27 maisons attaquées par des bandits armés, 9 véhicules braqués, 24 cas d'enlèvement et 6 cas de justice populaire au cours du mois de janvier 2024 dans la province du Sud Kivu. C'est ce qui révèle l'organisation SAGESEC Force Vive dans son traditionnel bulletin. Plus de détails avec vous, Rachel Kiesembangu.
Dans la rubrique tuerie, cette organisation a enregistré 31 cas au cours du mois de janvier contre 37 au mois de décembre, soit une légère diminution. Le territoire de Calais vient en tête. 27 cas d'attaque de maisons ont été également enregistrés sur l'étendue de la province. Au mois de décembre dernier, 15 cas ont été enregistrés. Comparativement au mois de janvier, on note une augmentation d'attaque de maisons. 9 cas de braquage des véhicules ont été enregistrés au mois de janvier contre 15 au mois de décembre. Le territoire de Shabunda a été l'entité la plus touchée avec 5 véhicules braqués. Les enlèvements ont été en hausse au cours du mois de janvier 2024. 24 personnes ont fait l'objet d'enlèvements contre 14 au cours de décembre dernier, lit-on. Cette structure regrette que, pour faire face à l'insécurité et répondre à la carence de l'autorité de l'État, la population a fait recours à la vindicte populaire au Sud Kivu. SAGESEC Force Vive estime qu'il est temps que le gouvernement prenne la question sécuritaire avec plus de responsabilité afin de permettre à la population de vivre et mener ses activités en toute quiétude. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent dans les Tanganyika pour parler de la carence des magistrats dans les tribunaux de paix de cette province. Constat fait ce mercredi à Kalemie par les coordonnateurs provinciaux de la Commission des droits de l'homme CNDH Tanganyika. Dieudonné Kabulo précise que cette situation ne favorise pas le traitement de plusieurs dossiers dans les tribunaux de paix. Ainsi, il demande au Conseil supérieur de la magistrature de trouver une solution en urgence face à ces problèmes. Dieudonné Kabulo, coordonnateur provincial de la CNDH Tanganyika, est au micro de Paulin Munanga.
Au tribunal de paix, il n'y a pas de magistrats. On n'a pas affecté des magistrats. Dans la province du Tanganyika, dans tous les territoires, il n'y a que le chef de juridiction, donc le président des tripés. Mais les juges qui doivent l'accompagner, ils ne sont pas là. Et ça crée de sérieux problèmes dans la justice. Puisque quand le parquet arrête et qu'il fixe les dossiers, il faut évacuer les dossiers, soit condamnés, soit acquittés. Mais lorsque le parquet renfle les dossiers, il arrête les gens. Ça cause des problèmes avec le prévenu. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature doit voir ces cas-là le plus tôt que possible. Nous avons des problèmes avec la prison de Kalemie ici. Il y a des décès chaque jour. Il y a la surpopulation dans les cellules. Et les gens meurent par les étouffements. Mais lorsque cette solution n'est pas trouvée au niveau des tribunaux de paix, puisque beaucoup d'infractions sont traitées au niveau du tribunal de paix, mais lorsqu'il n'y a que de détenus préventivement à la prison, ça augmente le nombre dans la prison et ça cause de sérieux problèmes.
Je l'ai dit en titre, à Goma, des centaines de sacs de braise arrivés au port de Kitoukou depuis samedi restent bloqués dans les barges et pirogues motorisées. Cette marchandise n'est pas déchargée à la suite d'un désaccord entre les vendeurs de braise et les services chargés de percevoir les taxes dans ces marchés. Les vendeurs estiment que les taxes exigées par ces services sont exorbitantes. Mardi matin, on pouvait voir les vendeurs assis à l'ombre attendant la solution des autorités. Rosalie Zawadi.
Ces chargements de braises proviennent des Kalere au site Kivu. C'est par ces ports de Kitoukou qu'une grande quantité de braises arrive à Goma depuis les derniers affrontements autour des Sakye et dans les Nyiragongo. Avant, les vendeurs des braises payaient les taxes à l'étalage selon leur catégorie. Aujourd'hui, ils doivent payer par sac de braises. C'est plein, Madame Chanceline Bahati.
Depuis que nous avons commencé, nous n'avons jamais payé autant de taxes. Les services des fonds forestiers nationaux nous fait payer 1000 francs par sac, l'environnement 1000 francs par sac, Sefouma 1000 francs par sac, la commune 400 francs par sac, ça fait 3400 francs par sac. Et ce n'est pas tout. Lorsque dans un sac de braise, tu as un profit de 4000 francs et tu dois payer les taxes de 3400 francs par sac, les 600 restants ne peuvent même pas payer un bol de haricots pour les enfants.
Depuis lundi, les délégués des vendeurs, les membres du comité du marché de Kitoukou et les différents services qui perçoivent les taxes sont en concertation. Les habitants de Goma, eux, espèrent un dénouement rapide de cette crise pour que les manques des braises ne s'ajoutent pas au chapelet des problèmes qu'ils endurent déjà. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Kwilu, les prix des biens de première nécessité ont augmenté sur les marchés d'Idiofa, chef lieu du territoire qui porte le même nom. C'est notamment le cas de plusieurs produits agricoles et manufacturés. Situation qui complique la survie de plusieurs familles de cette cité, ont affirmé les sources locales. La nouvelle société civile congolaise de cette entité territoriale attribue cette flambée des prix, notamment au taux élevé d'échange de dollars américains. Arsène Kassiama, son coordonnateur, demande au gouvernement de revoir ses taux afin de réduire cette tension que vit la population au quotidien. Les points avec vous, Irène Mbomaluzolo.
Par exemple, un basset de maïs jadis vendu à 15 000 francs congolais revient aujourd'hui à 22 000. Une mesurette de farine de maïs qui se vendait à 500 francs s'achète présentement à 1 000 francs congolais. Celle de cossette de manioc est passée de 1 000 à 2 000 francs. Un petit poisson chercheur de taille dite 16 moins revient maintenant à 2 000 francs au lieu de 1 000 francs congolais. Cette flambée de prix qui s'observe à Idjofa alors qu'il n'y a pas rareté sur les marchés concerne également les piments, les légumes, les savons de lessive ou de toilette, les sels, les sucres, les épices, etc. Pour les coordonnateurs de la nouvelle société civile du Jofa qui alerte, la hausse des taux d'échange des dollars américains ainsi que l'existence d'un marché privé dans cette cité sont à la base de cette surchauffe des prix. Arsène Kassiama en appelle à la responsabilité des autorités. Face à cette hausse des prix continuelle des denrées alimentaires, les ménagères disent éprouver d'énormes difficultés pour la survie de leur famille. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, le CIFOR ICRAF s'est dit satisfait de ses réalisations menées dans les paysages de Yangambi au cours de l'année 2023. Au nombre de celles-ci figurent notamment l'effectivité de l'approche champ, école, paysan, CEP, la production de l'électricité à partir d'une centrale de cogénération fonctionnant à base du bois biomasse. Ces activités sont menées grâce au financement de l'Union européenne. C'est ce qui ressort de son communiqué officiel publié hier à Kisangani. Les points avec vous, Jacques Moukonkolé.
L'une des innovations pour l'année 2023 aura été la mise en place d'une nouvelle approche de collaboration avec la communauté locale à travers les champs écoles paysans, indique ce communiqué. Des facilitateurs communautaires venus du paysage de Yangambi ont été formés pendant 6 semaines à Kisangani à partir du mois d'août. 1400 kg de tomates, 600 kg de choux et plus de 200 kg de poivrons ont été produits. Paolo Cheruti, directeur pays du CIFOR ICRAF RDC.
On croyait même pas au début, quand on faisait les interviews préparatoires, avec la sensibilisation, que ça aurait été possible. Et donc, pour moi, c'est aussi quelque chose de positif qui rentre au village avec les facilitateurs.
Outre les activités liées notamment à l'agroforesterie, à l'agriculture, ainsi qu'à la foresterie communautaire, le projet a construit l'année dernière une centrale de cogénération produisant de l'électricité à base du bois à Yangambi. Satisfaction de Frédéric Kamango, président de la FEC Yangambi.
Nous nous sommes réjouis de l'initiative combien louable du projet qui produit aujourd'hui de l'électricité sur place à Yangambi. Ça va accompagner le développement dans notre milieu.
Le CIFOR ICRAF s'adonne à contribuer non seulement à la préservation de la biodiversité, mais aussi à améliorer la gouvernance et le niveau de vie des paysans dans le paysage de Yangambi. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Tout autre chose, à présent, en Ituri, au moins 10 écoles primaires sont fermées depuis mardi dans la zone de santé des Réti, à 100 km de la ville de Bounia, dans les territoires de Djougou. Cela fait suite à la résurgence de la maladie à peste bubonique et des rougeoles qui touchent surtout les élèves. Les autorités scolaires et sanitaires disent avoir pris cette mesure pour protéger les enfants et intensifier les mesures de riposte contre ces pathologies. Reportage Ezekiel Mouzalia.
Plus de 3000 enfants ne vont plus à l'école à la suite de la résurgence et de la propagation rapide de la rougeole et de la peste bubonique, deux maladies déclarées depuis le 3 février dans la zone de santé de Réti dans le territoire de Djougou. La première école à avoir été touchée est l'Epekpandroma, où une vingtaine d'enfants sont déclarés positifs après des analyses. D'autres cas ont été signalés dans les écoles primaires Chouni, Apollo, Epekpandroma, Gola, Baïdjo, Bois, Montbleu et Réti. La décision de fermeture de toutes ces écoles est contenue dans une lettre du médecin chef des zones après concertation avec les responsables de la sous-division de l'EPST Djougou 2. L'objectif de cette mesure est de protéger les enfants contre cette maladie, mais aussi lancer une vaste campagne de pulvérisation de ces écoles en cours dans la zone en riposte à la résurgence de ces maladies. Benjamin Gabungandrou, un acteur de la protection civile dans la zone.
Chaque jour, les enseignants ramenaient les enfants au niveau de l'hôpital, ça faisait peur. Eux-mêmes avaient risqué d'être contaminés. C'est pour cette raison qu'on organisait la pulvérisation de ces écoles-là qui ont été les plus touchées, surtout Pandroma qui a été pulvérisé hier.
Cependant, cette mesure qui va durer 3 jours pourrait affecter des finalistes du secondaire qui effectuent leur stage dans ces écoles. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, menace sanitaire dans la prison urbaine Moulungé d'Uvira au sud Kivu. Plus de 100 détenus sont frappés par l'épidémie de la conjonctivite communément appelée Apollo sur un total de 603 pensionnaires de cette prison. Les rapporteurs du cadre des concertations et activistes pro-démocratie de la Lucha, François Iguilima, a fait ses constats sur place ce mercredi. Il affirme que la menace est très élevée du fait qu'il n'y a plus de cellules où interner ces malades à la prison. En réaction, le médecin-chef de la zone de santé d'Uvira, Panzunimi, signale que parmi les détenus malades, 65 avaient été isolés lundi et soignés par une ONG locale partenaire. Les visites sont interdites dans ces cellules de la prison en vue de ne pas contaminer les autres. On écoute Dr Panzunimi dans ses propos recueillis par Fiston Goma.
Nous maison de santé d'Ouvira, nous sommes informés qu'il y a cette maladie de la conjonctivite virale surinfectée, communément appelée Apollo, qui sévit actuellement au niveau de la province du Sud-Kivu. Petite maladie virale, bien entendu, mais qui peut se surinfecter. Les symptômes que présentent ceux qui ont cette maladie, généralement, ceux qui ont ça, ils ont du mal à fixer la lumière. Par exemple, pendant les jours, c'est difficile qu'ils puissent bien voir à cause de la lumière. La première mesure, c'est de pouvoir se laver les mains. Ça protège contre plusieurs maladies, y compris notre maladie ici de Apollo. Donc, il faut se laver les mains avant de quitter chez soi. Il faut se laver les mains quand on arrive au lieu de travail, au niveau de l'école, au niveau de n'importe quel endroit où il y a beaucoup de gens. La deuxième mesure, en tout cas, éviter de se serrer les mains. On doit aussi éviter de se frotter les yeux parce que vous ne savez pas si vous êtes déjà atteint par cette maladie ou pas. Et quatrième mesure, bien entendu, quand quelqu'un est atteint par cette maladie-là, il doit être soigné. Mieux, on doit l'isoler un peu pour qu'il ne puisse pas avoir à contaminer les autres.
Actualité internationale.
Le Zimbabwe a lancé mardi une campagne d'urgence pour vacciner plus de 4 millions d'enfants contre la polio après que les autorités sanitaires ont détecté 3 cas causés par la mutation rare du virus affaibli utilisé dans les vaccins oraux, dont une fillette de 10 ans qui a été paralysée en janvier.
L'invité.
Au Nord Kivu, le groupe Martin Luther King, une association congolaise qui travaille sur les droits humains et la non-violence active, propose la guérison de mémoire comme thérapie et en même temps une réponse au cycle des violences que subit la population dans certaines zones, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Notre invité de ce jour, Christophe Mutaka, directeur du groupe Martin Luther King au Nord Kivu, pense que cette guérison de mémoire est un préalable et une urgence pour espérer mettre fin au cycle des violences et arriver à la réconciliation des communautés et développement en général. Il s'entretient avec Sifa Maguru.
Christophe Mutaka, bonjour.
Bonjour madame.
Vous travaillez sur les thèmes guérison des mémoires. C'est quoi? Expliquez-nous d'abord ce concept-là, c'est quoi?
La guérison de mémoire, c'est un processus. Et ce processus-là, comment ça a commencé? Il y a l'Institut pour la guérison de mémoire qui a été formé en 1998. Il constitue une émanation du projet de centre de soins pour les victimes de la violence et des tortures, dont le prêtre anglican Michael Lapsley a été l'un des membres fondateurs. L'Institut pour la guérison de mémoire se donne pour objectif d'accompagner d'autres personnes dans leur parcours sur la voie de la guérison et de l'intégrité retrouvée. Et donc là, c'est juste un mot. Mais la guérison de mémoire, comme pour répondre à votre question, madame, la guérison de mémoire, finalement, c'est quoi? C'est que dans un contexte de conflit, dans un contexte de guerre, dans un contexte de violation grave des droits humains. Et chacun a une histoire.
Par rapport à son traumatisme.
À son traumatisme, à ses blessures. Et chacun a un parcours de vie à raconter. Et chaque histoire a besoin d'être entendue par quelqu'un. Nous sommes en train de baigner dans une culture de violence. Nous sommes en train de baigner dans une culture de mort. Si on ne fait pas attention, on risque de ne pas trouver de réponse à toutes nos questions. Et là, ça sera hypothétique de parler développement. Ça sera hypothétique de parler paix. Ça sera hypothétique de parler réconciliation. Lorsqu'on ne s'attaque pas aux vraies causes de problème, c'est dans ce contexte-là qu'un atelier de guérison de mémoire offre une occasion d'explorer et de reconnaître les blessures émotionnelles que nous portons sur le plan individuel et collectif. Quand je parle de collectif, je vois la famille, je vois la communauté, je vois la nation. Et donc, un atelier de guérison de mémoire offre un espace de sécurité où nous pouvons raconter notre histoire personnelle dans la confiance et dans le respect. Lorsque mon histoire est partagée, reconnue, je peux faire un pas vers la guérison des blessures personnelles et interpersonnelles. Ça veut dire que la guérison de mémoire, c'est un processus par lequel la personne visite ses blessures, son passé douloureux, et en visitant son passé douloureux, la personne raconte ce que la personne a vécu, et en racontant, en échangeant avec d'autres personnes, la personne peut constater qu'il y a d'autres qui ont connu des situations plus graves qu'elle et qui ont surmonté. Et à partir de là, la personne peut se dire, ok, alors moi aussi, je suis capable de surmonter ces blessures, de changer de victime en quelqu'un qui est libre. Donc ces échanges-là permettre de reconstruire la personne.
Monsieur Christophe, en quoi pensez-vous que la guérison des mémoires est une priorité, parlant de notre contexte du Nord Kivu?
Merci madame. La guérison des mémoires, c'est une priorité. Pourquoi? Parce que nous, depuis plus de 30 ans, nous sommes dans un contexte de violence, dans un contexte de graves et massives violations des droits humains, jusqu'à ce que certaines personnes arrivent même à parler de génocide. Par exemple, ce qui se passe dans la partie nord de notre province, où une communauté est massacrée chaque jour qui passe. Ce qui se passe en Ituri, il y a des gens qui sont massacrés seulement parce qu'ils appartiennent à telle ou telle communauté.
Et des familles qui ont disparu.
Des familles qui ont disparu seulement parce qu'elles appartiennent à telle ou telle communauté. Et là, c'est du génocide. C'est un génocide qui ne dit pas son nom. Et donc, dans le contexte qui est le nôtre, c'est que la guérison de mémoire, madame, c'est une des grandes priorités. Si on veut construire la paix, on devra d'abord mettre un accent sur la guérison de mémoire. La preuve est que les guerres se répètent. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à toucher le vrai problème.
À soigner la cause.
À soigner la cause. Et on s'attaque aux conséquences. Et donc, je vais paraphraser le père Michael Lapsley qui disait dans son livre « Si nous ne pensons pas les blessures de ceux qui ont le cœur brisé, nous ne pouvons pas espérer créer une société juste et durable, car les victimes d'hier deviennent trop facilement les bourreaux de demain. »
C'est ce qu'on est en train de vivre
actuellement. C'est ça notre contexte. Les victimes d'hier peuvent facilement être les bourreaux de demain. Et donc, on va tomber dans un cycle infernal de violence. Et nous sommes presque dans ce cycle infernal de violence.
Merci beaucoup, monsieur Christophe Moutaka.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Et c'est par ici que je place un point final à cette édition d'information sur Radio Okapi, mise en onde par Pierre Diassinois, sous la supervision et coordination de Pele Kipela Mondo. Au micro, Patience Ngalula. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.